Radio Kasim, Grand Témoin.
Il a été ambassadeur du Zaïre en Belgique, membre du comité central du APR et ministre de la Justice et garde des Sceaux. Albert Constantin Tshibwabwa Achilapachouabalobo est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Albert Constantin Tshibwabwa, soyez le bienvenu.
Merci Alain.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, grâce à Dieu.
Vous le savez, le 30 juin 2008, la RDC va célébrer le 48e anniversaire de son accession à l'indépendance. Quel bilan peut-on dresser de ces 48 ans? Comment entrevoir l'avenir? Avec vous, nous tenterons de répondre à ces questions au cours de cette émission. Vous naissez à Nanchakale, le 15 novembre 1938. C'est dans quelle partie du pays?
C'est au Kasaï occidental, dans le territoire de Dibaya, secteur du Dépataï. Je suis entre les deux Kasaï, disons, à la frontière avec l'Extrême Oriental.
Albert Constantin Tshibwabwa Achilapachouabalobo, que signifie votre nom?
Mon nom Tshibwabwa, c'est l'aîné des jumeaux. Donc, moi, je suis jumeau, avec ma sœur jumelle. Donc, j'ai pris le nom de Tshibwabwa en tant que l'aîné des jumeaux.
Ah bon? Bon. Achilapachouabalobo.
Achilapach, ça, c'est le prénom que j'ai pris moi-même quand j'étais jeune, parce que dans notre village, il y avait tellement de séries de Tshibwabwa. Ça, il fallait se distinguer. La plupart de Tshibwabwa, nous étions des enfants de païens. Alors que chacun est un surnom par lequel on pouvait le reconnaître. J'ai pris de moi-même Achilapach, c'est-à-dire, lorsqu'au village, on sert dans la casserole. Alors souvent, la nuit, lorsqu'on plonge sa main dans la casserole, il y a des mondes, on plonge la main sur le sol, parce qu'on ne voit pas.
On tape à côté.
On tape à côté. Et souvent, on le fait exprès lorsqu'il y a un enfant qu'on n'aime pas, qui n'a pas de famille ou bien orphelin, alors on retire le pot et il plonge sur le sol. Et c'est ça la signification qui donnait ce nom-là qu'il avait pris moi-même. J'avais à peine 5-6 ans.
Vous aurez 70 ans en novembre prochain. Quel genre d'enfant étiez-vous?
Oui, j'étais un enfant très discipliné, très appliqué à l'école, mais très orgueilleux.
Pourquoi?
Je ne sais pas, j'étais l'aîné des garçons de ma famille et puis de mon village, et même, je crois, de mon groupement, disons de mon village. Je suis le premier à avoir fait les 4 ans primaires terminés et il y a eu un concours, j'ai réussi pour passer à 4e primaire et je suis le premier à faire ce qu'on appelait le sélectionné. C'est la 5e, la 6e sélectionnée. Dans tout mon village.
Et
alors, je me sentais trop fier. Et puis, quand j'ai fait ma première communion, j'étais reçu comme si c'était un grand mariage. Tous les villages venaient m'accueillir avec des vélos, des poules. Donc, tout ça, ça m'a donné un peu l'idée que j'étais un enfant exceptionnel. J'ai pris une conscience de ça. Alors, ça me rendait un peu trop orgueilleux. C'est ça qui fait que même dans ma vie, les gens sentaient ça. Qui avaient un peu trop d'orgueil. C'était grâce à Dieu que je suis parvenu à connaître Jésus. Je dis la vérité. J'étais assez orgueilleux.
Les études primaire, vous en parlez déjà. Donnez-nous un peu plus de détails. C'était dans quelle école?
J'ai fait toutes les primaires à la mission. D'abord, la première année dans mon village, deuxième et troisième année dans le village voisin, à Kenkalamba. Le 4e, 5e, 6e primaire à la mission catholique de Chocolat à Saint-Gabriel.
En ce qui concerne vos études secondaires, pourquoi vous passez par plusieurs écoles?
Et ça, c'est l'instabilité qui était à moi. Bon, j'ai été d'abord au petit séminaire de Capé. Après, j'ai trouvé que je n'étais pas appelé à devenir prêtre.
Vous aviez perdu la foi, la vocation?
Non, j'étais plutôt orienté, déçu par le comportement des missionnaires. J'ai compris que je préférais être un bon chrétien au lieu d'être un mauvais prêtre comme j'envoyais. Je l'ai même notifié à mon directeur.
Et de Kabwe,
je suis allé au collège. Je vais être au collège seul, qui regarde les grands, à Lubumbashi. Mais comme on sentait un peu l'histoire de l'indépendance, je suis revenu à Kampone Saint-Barkmas. Ça, j'ai fait la poésie. Alors, quand il y a eu des problèmes de l'indépendance, nous avons été renvoyés à Lobourg. Je suis allé au collège Saint-Louis. C'est là que j'ai été mené d'une antique école latine.
Citez-nous quelques noms d'amis d'enfance de Saint-Louis à Lubumbashi, à l'actuel Kananga.
Oui, vous avez M. Pierre, qui est au rectorat de l'université ici. Moi, je connais Pierre. Vous avez Yaoné Joseph, qui a été longtemps à NPK. Vous avez Somo Claude, qui est, je crois, à la CNB. Vous avez le docteur Pierre Fleurimont, qui est en Europe. Le professeur Kabangé, Tabala. Vous avez le professeur Moulumbakach. Ça, c'est ma promotion
de
Saint-Louis, du collège de Kampoende et puis de Saint-Louis.
Chef d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Albert Constantin Chibouaboua Achilapa Chiwabalobo, vous êtes ancien ambassadeur du Zaïre en Belgique, membre du comité central du UMPR et ministre de la Justice et garde des Sceaux. Entre 1962 et 63, vous débutez dans la territoriale comme secrétaire aux affaires économiques à Loulabourg, l'actuel Kananga. Comment avez-vous vécu les festivités du 30 juin 1960?
Excusez, de 1960 à travers, nous étions très jeunes, nous, pour nous c'était l'indépendance. J'ai passé cette journée à Timbuktu. Vous savez, Timbuktu était un grand centre. Et lorsqu'on a proclamé l'indépendance, c'était la folie. C'est la folie. Et puis surtout pour les jeunes, nous avons cru que pour nous, nous devenions vraiment indépendants. Au fond, on a passé dans des débits de boissons, on buvait, on dansait. Bref, c'était la joie de se croire libre, indépendant.
Quel bilan peut-on dresser de 48 ans d'indépendance? L'année passée, Albert Constantin Chibouaboua, nous avons posé la question à Cléophas Kamitatou Massamba, l'un des pionniers aussi de l'indépendance, qui lui dressait à l'époque un bilan mitigé de 47 ans d'indépendance. Je vous invite à l'écouter. Il répondait en lingala à la question d'un auditeur.
Ce que bon mon état n'a n'ayez le beaucoup dit le lot, tu poni président, madame Openza, tu poni ba député, tu kabati place, tu pèse un gouvernement, tu kabati même parce qu'il a choisi, tu kale kazavi à jouer le bomba, disant que tu pèse pour ce premier ministre. Mais le pauvre, à quoi ça la nini? Pendant mon kilo yo, la richesse est le kamingi, bateau balingi, ou ya kobot lango bazali matas, bon ou bisoupe armé, ya ko protéger bloc wana, tozan angote, faiblesse n'a biso matas en wana. Même ma voisin, la fille de Bangote, la Bamso Basali, un petit pays physiquement, dans un ambassade à Bango. Mais comme il faut dominer Bisso, au bord de Bisso, ma richesse, pour Bisso, pour les gens de Saint-Amabé, armée et Zamalamote, ordre de prohibité, sécurité pour faire la Samabé. Voilà le problème de Bisso de Yangouan. Somme de bon, ce matin, nous avons gagné l'indépendance de Bisso.
Albert Constantin Chibouaboua, c'était là que Cléophas Kamita Toumasamba. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, il relevait quelques faiblesses 47 temps d'indépendance après, c'était l'année passée. Il parle entre autres d'un certain manque d'ordre, de la faiblesse de l'armée, manque d'organisation. Une année après, comment vous évaluez les 48 ans d'indépendance de la RDC?
Écoutez, alors moi je crois que je ne serai pas aussi optimiste que le juge Kamitatou. Parce que moi qui ai connu l'indépendance jeune, je vois que nous avons reculé de plus de 60 ans.
Comment ça?
Comment ça? Et regardez d'abord en ce qui concerne la vie elle-même, la vie sociale en tant que vie. Est-ce que le Congolais vit aujourd'hui? Pas en tant qu'élève, en tant que simple étudiant. J'avais toutes les possibilités, j'avais mon vélo, j'avais tout. Je pouvais avoir ce dont j'avais besoin. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un étudiant qui peut prétendre avoir tout? De deux, ceux qui travaillaient avaient leur salaire le mois. Et puis c'est un salaire qui pouvait lui permettre d'arriver jusqu'à la fin du mois. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un Congolais qui peut prétendre avoir un salaire qui lui permette de vivre jusqu'à la fin du mois? En dehors des voleurs, des pilleurs, je crois que sur ce plan-là, il n'y a rien qui a marché. En plus, toutes les infrastructures, les tissus sociaux, économiques, a été complètement détruit. Il n'y en a pas aujourd'hui. Donc ça existait. On allait à l'école en bus scolaire officiel. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Et lorsqu'on terminait les études, on était engagé directement. Aujourd'hui, les jeunes gens travaillent. Si nous prenons la moyenne de ceux qui ont terminé depuis 15 ans, combien en a-t-il qui ont trouvé un emploi convenable?
Mais certaines personnes, Albert Constantin, Chibouaboua Chilapache, diront que vous avez quand même été, on le verra aussi, parmi les dignitaires du régime Mobutu. Ils peuvent vous accuser aussi d'avoir contribué à la destruction de la nation.
Moi, je crois que j'étais parmi les responsables du parti, qu'on appelle Parti État, à un moment donné, et nous avons dénoncé ce que je dénonce aujourd'hui. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je le dénonce. Nous avons dénoncé les 10 fléaux. C'est mon père. Nous avons dénoncé le mal congolais ou mal zaïrois. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, nous avons dû faire l'analyse. Nous avons découvert que ce qui était un véritable problème chez nous, c'était le manque d'amour de ce pays, le manque de sincérité, le manque de vérité, le manque de justice. Parce que les cadres congolais, ils prononcent des grands discours, mais ils font le contraire. Si vous avez à un moment donné parlé de la dichotomie, hein? Donc ça, nous avons toujours dénoncé. J'étais responsable, je reconnais, mais je crois que j'étais responsable conscient,
alors,
consciencieux.
Donc, pour vous, le bilan des 48 ans est largement négatif.
C'est assez négatif pour moi. Sauf, je vous en prie. Je crois que nous avons eu comme beaucoup d'intellectuels. Quand on voit ce qu'on a eu comme universitaire à l'indépendance, et le nombre d'aujourd'hui, ça dépasse tout entendement. Nous avons eu beaucoup d'universitaires, beaucoup de techniciens, et qui malheureusement ne sont pas utilisés.
Entre 1963 et 1966, vous travaillez comme directeur provincial de la justice à Lualaba, l'actuel Kamanga, directeur général du Forêt Ami à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, directeur régional des APJ à Lualaba. De 1966 à 1967, vous êtes directeur régional de l'Office national de gestion des biens immobiliers de l'État au Nagui à Elisabethville, à Lubumbashi, jusqu'à 1969. Oui. Aujourd'hui, la spoliation des biens de l'État est un problème. Comment, à votre avis, peut-on le résoudre?
Quand on dit qu'il y a spoliation des biens de l'État, je crois que c'est un problème global. Parce qu'à un moment donné, l'État était incapable d'entretenir ce qu'il avait comme bien immobilier. Donc, incapable, il n'a pas de crédit et nous avons été obligés, donc l'État congolais a été obligé de céder certains bâtiments à ceux qui occupaient. Comme l'État ne pouvait plus supporter les frais d'entretien, on a cédé aux fonctionnaires, aux agents de l'État et à d'autres personnes qui pouvaient faire. Donc c'est dans ce cas-là. Mais par contre, quand on parle de spoliation, il faut voir ceux qui ont pu céder sans suivre la procédure, sans rien payer. Parce que c'est un problème à deux volets et qu'il faudrait examiner cas par cas.
Mais pourquoi vous revenez aux études beaucoup de temps après, puisque vous deviendrez ensuite diplômé en droit de l'UNASA, l'université de Kinshasa actuelle?
C'est parce que j'ai constaté qu'on me faisait trop de confiance. On me donnait de grandes responsabilités. En même constat, je sentais que si je n'avais pas tenu l'université, j'étais responsable de la direction, ce qu'on appelle la direction provinciale de justice. J'étais avec le procureur de la République, j'étais avec les avocats. Moi-même, je n'étais pas juriste, je n'étais pas avocat. Donc, j'ai trouvé qu'on me faisait trop confiance et il fallait mériter cette confiance. C'est comme ça que j'ai décidé de rentrer à l'UGC et puis pouvoir mériter vraiment la confiance qu'on me faisait.
Entre 1967 et 68, vous êtes président sectionnaire du MPR à la commune de Lubumbashi au Katanga. En 1970, vous êtes suppléant et vous entrez au conseil législatif en 72. Et en 75, vous êtes réélu dans la ville de Kananga. Comment avez-vous accueilli la naissance du mouvement populaire de la révolution en 67?
En 67, avant que le MPR n'existe, nous étions dans le groupe qu'on appelait le Corps de volontaires de la République.
Sévère.
Sévère, tous les jeunes nationalistes. Donc, nous étions là pour soutenir l'action du président Mobutu, qui lui-même s'était déclaré nationaliste, étant successeur, disons, de Lumumba. Et c'est comme ça que, lorsque le MPR a été créé, nous avons trouvé que c'était le parti des nationalistes et nous avons été heureux de pouvoir diriger même une section de ce parti à Lubumbashi. Et nous avions compris que sans parti politique, il était difficile de canaliser les énergies et de pouvoir mener des actions politiques en dehors de la parole du président. Donc, je crois que nous avons été heureux personnellement. J'ai salué avec enthousiasme la création du MPR. J'en ai été parmi les responsables d'une section, donc c'est-à-dire d'une commune, en ce moment-là.
Vous occuperez plusieurs autres fonctions dans le MPR. En 1980, membre du comité central, en 81, secrétaire général chargé de la mobilisation, propagande et animation politique. En 83, vous êtes nommé ambassadeur du Zaïre en Belgique. Comment avez-vous vécu la période du contentieux belgo-congolais?
Et ça a été une période assez difficile, dure, parce que personnellement, ça fait comme je l'ai toujours dit, nos relations avec les Belges sont des relations d'amour, de cœur. Moi, je suis arrivé en Belgique en 61 et j'ai trouvé qu'il y avait dans cette famille belge quelqu'un qui avait été soit missionnaire, soit religieuse, soit agent territorial au Congo. Donc nous avions des rapports avec ces gens. Et quand on a eu ce problème de contentieux, je crois que ça a été pénible, du moins pour ceux qui étaient honnêtes. Mais le contentieux a été mal mené, mal compris de part et d'autre, et il reste toujours contentieux. Il n'a jamais résolu. Moi, j'ai essayé de mettre fin aux difficultés qui avaient entre le président Mobutu et la Belgique officielle. C'est ce que, après 10 ans que le président Mobutu n'arrivait plus en Belgique, j'ai tout fait pour qu'il vienne en Belgique, qu'il soit reçu par le roi Baudin et qu'il traite avec le commandant belge et que la coopération belge reprenne.
Quelques temps après, vous deviendrez administrateur de l'Office national de pêche. Vous le savez, le 24 juin, c'est la journée du poisson sur l'étendue du territoire national. Rendons-nous Albert Constantin Chibouaboua dans la province du Bandundu, qui est comptée parmi les provinces traversées par plusieurs cours d'eau poissonneux, mais qui a du mal à émerger dans le domaine de la pêche. Les rares pêcheurs s'y débrouillent avec les techniques archaïques, rien que pour l'autosuffisance. Ils attribuent cette façon de faire au manque d'encadrement et de matériel nécessaire à la pêche, ainsi qu'aux problèmes liés à la conservation et à la commercialisation du poisson. Basile Bakumbali.
Plusieurs cours d'eau traversent la province du Bandundu. On peut partir du fleuve Congo en passant par les rivières Kasai, Kwango, Kwilu, Lokeni, Fimi et lac Maïndombe pour ne citer que cela. Pourtant, sa production en poisson reste si minime. La pêche y reste artisanale, mais surtout archaïque et timide, à tel point que plusieurs poissons n'y marquent de leur vieillesse. C'est à peine que l'on remarque des pêcheurs à la ligne et d'autres au petit filet s'aventurer sur les rivières. Pas d'outils nécessaires, pas de maison de conservation, ni moyen d'évacuation de produits de la pêche. Contrairement aux autres provinces, les marché de Bandundu ne reflète pas du tout la période de pêche, ce qui fait que les vendeurs de poissons chinchards, connus sous le nom d'Inkyodi, continuent à y faire de bonnes affaires. Pour Venas Makulwata, pêcheur rencontré au bord de la rivière Kwilu, il n'existe aucune politique d'encadrement des pêcheurs à Bandundu. Chacun y va à sa manière pourvu de s'autosuffire. Monsieur Makulwata ajoute que ce domaine reste très négligé alors qu'il peut bien être compté parmi les générateurs de ressources nécessaires à la province. Pour lui donc, cette journée de poissons doit interpeller la hiérarchie provinciale à investir aussi dans le domaine de la pêche. De Bandundu-Ville, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Merci Basile Bakumbane. Albert Constantin Chibouaboua sur la pêche. Comment pensez-vous qu'on peut relancer la pêche en RDC où il y a même des lacs et des rivières où certains poissons meurent de vieillesse hein?
J'ai été administrateur de l'office de pêche à partir de 78. Donc jusque un peu plus tard, et après j'ai été administrateur dans le studio congolais pour la conservation de la nature.
Je vous en prie.
Voilà. Alors, moi je crois qu'il manque vraiment une politique générale, nationale, en ce qui concerne la pêche. Ce problème qui se pose au Bandundu se pose dans toutes les provinces. Ce n'est pas seulement au Bandundu. Normalement, ce pays ne peut pas importer du poisson. On ne peut pas manger du soir congelé depuis des années d'habitude qui ne donne plus rien, qui n'apporte plus rien au peuple, au point de vue santé. Mais nous manquons vraiment de politique. Donc, c'est qu'il faut que les responsables national et provincial. Maintenant, on a des responsables provinciaux du domaine puisse établir une politique, puisse encadrer les pêcheurs. Les gens doivent être encadrés, ils doivent être soutenus. Il faut qu'on leur donne le moyen. Pour le moment, la pêche à la ligne, là, ça ne rapporte presque rien du tout. Il faut qu'on parvienne à leur donner le matériel nécessaire et je crois que nous pourrons aider le pays à ne plus dépenser des milliers de dollars pour importer ce qu'on appelle une piode ici, qui, sur le plan, disons, physique, n'apporte plus rien. Ça fait des années dans des congélateurs et puis on ne sait pas dans quelles conditions sont conservées. Il faut qu'on prenne conscience.
Radio Capille, grand témoin.
Il a été ambassadeur du Zaïre en Belgique, membre du comité central du MPR et ministre de la Justice et garde des Sceaux. Albert Constantin Tshibwabwa Achilapa Tshibwabalobo est aujourd'hui l'invité de grand témoin. En 90, Albert Constantin Tshibwabwa, le vent de la démocratisation vous mène au PDSC, Parti démocrate social chrétien. En 96, vous êtes ministre de la Justice du gouvernement Kyengo et en 97, vous occuperez les mêmes fonctions au sein du gouvernement Likulia avant l'entrée de l'AFDL. Comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC aujourd'hui?
Écoutez, là, je sais que ce pays est un pays qui est aimé de Dieu. Nous connaissons beaucoup de difficultés aujourd'hui, des difficultés énormes. Et l'avenir de ce pays est un avenir radieux, à condition que nous prenions conscience même de ce que nous avons comme responsabilité. En commençant par le numéro 1 jusqu'au dernier. Le Congo ne manque de rien. Nous avons trop de potentialités. Il suffit d'une petite organisation pour que nous puissions nous relever. Moi, j'ai toujours dit qu'avec une véritable organisation, avec la prise de conscience du Congolais, dans 5 ans, les gens pourront admirer les miracles congolais. Malheureusement, aujourd'hui, on voit plutôt les intérêts personnels. Il y en a très peu qui songent aux intérêts du pays, aux intérêts de la nation. Donc, maintenant, nous devons faire un travail de conscientisation. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Tout ce qu'on nous a voulu faire, aller inaugurer, si j'ai inauguré, c'est pas ça le problème. Parce que ce qu'on détourne, c'est plus que ce qu'on met dans la caisse de l'État. Il faudrait qu'on fasse un travail de conscientisation et qu'on parvienne à mobiliser toutes les énergies du peuple congolais pour que nous puissions relever ce défi. Ce défi, il est énorme, mais il n'est pas impossible. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Donc, qu'on prenne conscience de ce que nous avons comme responsabilité, qu'on prenne conscience de ce que nous avons comme possibilité, qu'on prenne conscience de ce que seuls nous ne pouvons rien. Il faut avoir le concours des partenaires et surtout que les gens se mettent en tête que ce pays, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui a dit tant de potentialités. Ce qu'on a encore à découvrir dans ce pays, les gens ne le connaissent pas. C'est Dieu a voulu que de ce pays, on puisse parler d'un véritable rayonnement spirituel, matériel, même scientifique.
En 98, à la sortie de la résidence surveillée où Laurent Désiré Kabila vous place, vous intégrez le RCDN de Roger Lumbala. Qu'est devenu Tshibwabwa Achilapa aujourd'hui?
J'ai été appelé quand j'ai vu que c'était un groupe de jeunes. C'était pour un jeune seul et qui avait quand même le courage de défendre les valeurs que moi j'ai défendues, c'est-à-dire la vraie démocratie. J'ai les rejoint, j'étais partout, j'étais à Sun City, j'étais à Matadi, et puis finalement j'ai représenté l'RCD national comme haut représentant au comité de suivi. Il y avait 13 personnes. Et puis je l'ai représenté au Sénat, où j'étais premier rapporteur adjoint du Sénat.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes devenu?
Aujourd'hui, je suis un homme tout à fait indépendant parce que j'ai compris que. Et les partis politiques et les associations, jusqu'au jour où on n'a pas encore compris ce que nous avons comme responsabilité vis-à-vis du pays. J'ai préféré être indépendant jusqu'à ce que Dieu me dise avec qui j'ai pu coopérer réellement pour l'intérêt national. J'ai eu tous ces postes. J'ai été député plusieurs fois au Conseil de la République pendant la transition de Mobutu. J'ai été tout ça. Mais quand je vois ce que nous avons fait pour le peuple, je vois que c'est presque rien. Donc je préfère plutôt être indépendant, parce que là, j'ai l'occasion de dire ce que je pense à qui que ce soit. Je ne suis pas lié.
Nous avons contacté quelqu'un qui vous connaît. Je vous invite à suivre le témoignage qu'il fait de vous.
Bonjour, je m'appelle Romain Lobo Tshibwabwa. Je suis le fils aîné de Maître Tshibwabwa.
Quel effet ça vous fait de parler à son père en direct?
C'est assez particulier, surtout que c'est par une radio interposée. C'est bien la première fois que cela arrive, c'est assez spécial.
Que représente votre père pour vous?
Oh, un modèle dans beaucoup de choses. D'abord, dans la manière d'être, la manière de savoir garder une certaine dignité, respecter sa parole. En fait, des valeurs qui, aujourd'hui, sont presque un peu passées des lignettes. Et je pense que nous avons eu un modèle presque parfait, pour ne pas dire parfait, avec notre père.
Pouvez-vous nous raconter une petite anecdote par rapport à votre père?
Oh là là. là. Bon, je vais te raconter comment il a quitté que je savais conduire. J'étais en troisième secondaire et bon, tous les matins, je me donnais la clé pour chauffer la voiture. Et puis un beau jour, je ne sais pas comment, il a appris que je savais conduire, enfin que j'avais appris à conduire. Et que bon, il est venu, il m'a donné la clé, il m'a dit ok, démarre et on part. J'ai démarré, il est monté dans la voiture et je l'ai conduit. Et c'est depuis ce jour-là qu'il a commencé à m'accorder le véhicule.
Une question audacieuse, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez votre père?
Oulala, je ne pense pas qu'il y a quoi que ce soit que je n'aime pas en lui. Au contraire, il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'aimerais me conformer à lui.
Il est avec nous au studio, adressez-lui un petit message en direct.
Le message, c'est simplement un remerciement d'abord, un message de gratitude. Parce que ils se sont ensemble avec notre maman privés de beaucoup de choses pour nous donner une éducation au top. Et je sais que c'était pas évident parce qu'aujourd'hui nous avons des gosses et nous nous rendons bien compte combien c'est difficile et combien c'est dur. Et pour tout vous dire, nous sommes à 13 dans la famille, même père, même mère. Alors vous vous imaginez que moi j'en ai que 4. Déjà, j'ai la tête qui cogne, et alors pour 13, c'était pas évident.
Merci Romain Lobo et bonne journée.
Bien, de bonnes choses à vous.
Albert Constantin, c'était là votre fils Romain Lobo que l'on venait de suivre. J'ai lu beaucoup d'émotions sur votre visage et à certains moments, vous arborez un large sourire. Réaction?
Parce que je peux dire que je suis heureux. Je suis heureux d'avoir des enfants qui ont suivi ce que j'ai donné comme conseil, des enfants qui se demandent très bien dans la vie, et surtout des enfants qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu. C'est surtout ça ma joie.
Thank you.
Nous allons clôturer cette émission à la veille du 30 juin. Quel message pouvez-vous adresser à la jeunesse congolaise qui vous suit en ce moment?
Écoutez, Alain, toute la jeunesse congolaise, parce que j'étais jeune et j'ai des enfants qui sont jeunes, tout ce que j'ai pu donner comme message, c'est un message d'espoir, un message d'espérance, d'encouragement. Que le jeune congolais sache que les difficultés qu'il vit aujourd'hui ne seront pas éternelles, mais qu'il prenne conscience de ses responsabilités futures, parce que le Congo de demain sera ce que nous faisons de la jeunesse aujourd'hui. Or, nous semblons avoir oublié la jeunesse, mais que la jeunesse même se prenne en charge pour son avenir.
Albert Constantin Tshibobo à Chilafresh, merci d'être passé à grand témoin.
C'est moi qui vous remercie, Alain. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Albert Constantin Tshibobo Achilapache Wabalobo, ancien ambassadeur du Zaïre en Belgique, membre du comité central du MPR et ministre de la Justice et garde des Sceaux. Merci à Willem Lungamba qui était à la technique et à la réalisation, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Soit qu'il aime, c'est dans la province du Bandundu et partout dans le monde.